Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Les avocats ne sont plus ce qu'ils étaient. Croyez-vous que cette réflexion nostalgique sur la profession d'avocat ait été émise hier ou même avant-hier ? Non, cette remarque désabusée se trouve déjà dans le dialogue des avocats de Loisel qui date de 1602 et qui écrit précisément, je le cite, « Il ne faut plus espérer que la dignité qui était jadis en l'ordre des avocats y demeure. » Et c'est dans l'ouvrage de Monsieur André Damien que j'ai trouvé cette phrase. Monsieur André Damien, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été deux fois bâtonnier de l'ordre des avocats. Et vous avez même présidé la conférence des bâtonniers de France. Vous êtes membre de l'Institut et président pour l'année 2006 de l'Académie des sciences morales et politiques. Et faut-il s'en étonner, vous avez choisi le thème de la justice comme thème de réflexion pour vos confrères académiciens. Alors je le disais, vous avez produit de nombreux ouvrages sur la profession d'avocat. Et nous allons aujourd'hui parler de celui qui s'intitule « Les avocats du temps passé ». Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à Canal Académie. Faut-il vous demander si le thème de la profession autour de cette profession d'avocat vous tient à cœur ? C'est évident. Et dans votre livre « Les avocats du temps passé », vous vous proposez d'étudier non pas l'histoire du barreau, ni même celle des grands avocats, ni celle des grands procès, parce que ça a été déjà fait de nombreuses fois, je crois, mais la vie quotidienne de l'avocat au cours des âges. Comment cette idée ou ce choix vous est-il venu ?
Mais d'une manière très simple. D'abord, quand on est dans une profession qu'on aime, on aime connaître son passé. Alors, il y avait des histoires des avocats, histoires souvent assez légendaires d'ailleurs. Et puis, il y avait l'histoire des grands avocats. Mais ça, c'était connu, c'était fait. Puis l'histoire des grands procès, il y a eu toute une série de livres, y compris Maurice Garçon, qui a fait une excellente histoire de la justice. Mais ce qui n'avait jamais été fait, c'était l'histoire de la vie quotidienne des avocats. Et en me servant de livres oubliés complètement aujourd'hui, j'ai réussi à essayer de faire un tableau de l'évolution de la vie quotidienne des avocats.
Alors ces livres étaient oubliés, ça veut dire que dans votre livre, ce sont des inédits en partie ?
Ce sont des inédits que j'ai trouvés chez un libraire d'occasion spécialisé dans le droit, qui m'a lâché dans sa réserve, et je suis ressorti avec 50 livres ou 100 livres qui n'avaient jamais été relus depuis un siècle. Je cite par exemple un livre intéressant pour la période du 19e siècle, c'est L'avocat roi de Buteau. Oui. Ben, personne n'a aujourd'hui L'avocat roi de Buteau, et on a même cru, tout à ma fausse gloire, que j'avais inventé ce mot d'avocat roi alors qu'il est le titre d'un livre.
Voilà, comme quoi on découvre aussi dans, au fil des pages que M. André Damien n'est pas seulement un juriste éminent, mais aussi un bibliophile, mais il a aussi bien d'autres talents. Donc vous avez voulu, alors là c'est vous que je cite, faire une sociologie du barreau par l'évolution de la vie quotidienne. Alors évidemment, ça vous permet de marquer les traits de la profession d'avocat qui sont des traits permanent et non pas historiquement évolutif, si
c'est
je puis dire.
C'est exact. Et on voit qu'il y a des évolutions qui suivent les événements politiques parce qu'il y a une évolution de la société qui entraîne une évolution du barreau.
Donc vous donnez la parole aux avocats eux-mêmes qui vont raconter leur vie. Et c'est l'un des intérêts de votre ouvrage, Les avocats du temps passé, c'est bien de donner de nombreuses citations et même des anecdotes assez intéressantes. Alors dans votre ouvrage, qui est un gros ouvrage, épais, qui fait plus de 500 pages, vous distinguez plusieurs périodes. D'abord, vous passez un peu rapidement, c'est vrai, sur les origines, le temps des Romains, parce qu'on peut pas s'étaler sur toutes les époques, je suppose.
Puis on ne sait pas grand-chose.
On ne sait pas grand-chose.
On connaît Cicéron, les logographes d'Athènes. On n'a pas grand-chose. On a les discours de Cicéron qui n'ont jamais été plaidés sans doute, mais écrits a posteriori. Et qui, comme on disait à l'époque, sentent l'huile, c'est-à-dire l'huile de lampe avec laquelle on écrit dans le calme. Il n'y a jamais eu de véritable plaidoirie de Cicéron. Et puis alors, on trouve les Français, enfin les Gaulois, qui sont des avocats extrêmement brillants, prolixes, orateurs, qui correspondent bien au tempérament gaulois. Puis après, c'est le grand silence qui va se réveiller à la fin du XIIIe siècle.
Et alors, vous allez développer, vous, plus longuement, les avocats de la période classique, c'est-à-dire le 17e, mais surtout 18e siècle. C'est une de vos périodes de prédilection. Enfin, vous la développez longuement dans votre ouvrage.
Oui, c'est celle où le barreau évolue le plus. C'est celle où il devient une grande chose. Un barreau de spécialistes, un barreau de grands juristes, un barreau de conseillers et d'auteurs de consultation, beaucoup plus qu'un barreau de plaideur. Pour le barreau de plaideur, il faut attendre la plaidoirie au pénal qui ne viendra qu'un siècle après.
Et en effet, donc vous avez cette première phase donc du 18e, 17e, disons période classique jusqu'à la Révolution, et vous êtes très à l'aise dans l'histoire de l'Ancien Régime. Puis vous étudiez le barreau pendant la Révolution et l'Empire, et après vous étudiez le barreau au 19e siècle que vous détaillez très longuement. Pour décrire toutes ces périodes, vous avez la même approche. Alors, c'est un peu de méthodologie que nous allons faire. D'abord, vous posez le cadre judiciaire, c'est-à-dire le cadre légal dans lequel évolue l'avocat. Pourquoi ? Ce cadre a beaucoup changé ?
Oui, c'est ce qui a le plus changé, puisque à partir de la Révolution et de la suppression des parlements, on a une nouvelle société judiciaire qui est en train de s'effondrer actuellement, mais qui aura quand même duré un siècle et quelques. Et je crois que l'avocat a évolué au fur et à mesure, l'apparition des parlements en cour souveraine, ensuite la révolution et la suppression de pratiquement tout, et la renaissance d'un certain barreau, qui est un barreau marqué par les tribunaux de Maupoux, le chancelier de France, qui a fait la première grande réforme judiciaire sous Louis XV, et puis le barreau moderne, qui est assez différent du barreau d'hier.
Donc une évolution, et chaque fois vous consacrez un long développement aussi à l'organisation de l'ordre, parce que l'ordre des avocats, qui n'avait d'ailleurs pas été toujours un ordre, j'ai appris ça dans votre ouvrage, il a lui aussi changé d'organisation au fil des siècles.
Alors c'était une confrérie, car il était indispensable que les avocats puissent être une puissance par rapport aux puissants de l'époque, c'est-à-dire le roi, les seigneurs et les parlements. Donc, pour être une puissance, il fallait être groupé, comme aujourd'hui les syndicats regroupent des intérêts collectifs. Et c'est à partir de la confrérie religieuse, puis qui devient laïque peu à peu, et avec l'élection du bâtonnier, c'est-à-dire le président de la confrérie, qu'on a véritablement l'apparition d'un contre-pouvoir sérieux et puissant.
Mais en même temps, vous le dites bien, en tout cas pour les avocats de l'Ancien Régime, la différence avec les autres, justement, puissants, c'est qu'ils n'achetaient pas leur charge. Et ça faisait une grande différence.
Et ben, le barreau est une profession ouverte à tout le monde, dès qu'on a des titres juridiques nécessaires, et ouverte à un certain talent qui vous rapporte une certaine clientèle. Alors que les magistrats, figés peu à peu dans la vénalité des charges de judicature, sont parfois des ânes, porteurs de reliques, qui sont donc vénérés en raison de l'acquisition d'une charge, grâce à une réforme qu'a fait Louis XIII, qui s'appelle la Paulette, qui permet aux magistrats de désigner leur successeur, voire de vendre à un successeur, si ce n'est pas un héritier, de vendre la charge.
Mmh. Ce qui existe encore dans certaines professions, certainement aujourd'hui. Alors, André Damien, nous parlions justement de la manière dont vous présentez ces avocats du temps passé, puisque c'est le titre de votre ouvrage. Vous donnez des détails très concrets sur la vie quotidienne des avocats. D'abord, sa formation, ses études, ses débuts, même sa vie privée, sa déontologie, ses honoraires, la manière dont se passent les audiences, les plaidoiries, etc. Et même sa spiritualité. J'ai retrouvé là l'une des questions qui vous passionne dans la vie, la spiritualité des avocats. On en parle encore ou c'était seulement sous l'Ancien Régime ?
Donc c'est surtout sous l'Ancien Régime. Aujourd'hui, il y a encore des avocats qui ont un idéal et qui essayent d'exprimer. Mais dans l'Ancien Régime, qui est un état de chrétienté, on a cherché une spiritualité de l'avocat. Et celui qui l'a trouvé le mieux, c'est Saint Jean Eudes, qui est le grand prédicateur du XVIIe siècle et qui est un grand confesseur, un missionnaire. Et il a analysé, c'est un Normand, avec une exactitude absolue, la vie de l'avocat. C'est ainsi qu'il décrit l'avocat qui fait venir le client de loin sans avoir préparé le dossier et lui fait perdre ainsi son temps. Sur les honoraires, si on mettait, c'est un Olivier Maillard qui dit ça, si on mettait sous la presse les robes des femmes d'avocats, le sang des justes et des pauvres en ruissellerait.
C'est horrible.
Oui.
Justement, puisqu'on parle de robes, vous parlez aussi de ce détail, mais qui tout de même intéresse les lecteurs que nous sommes, très profanes. Alors, les avocats de l'Ancien Régime portaient un habit rouge ou un habit noir?
Alors l'habit noir était l'habit normal, l'habit rouge était un habit des grandes cérémonies, car on les assimilait aux puissants magistrats qui étaient en cramoisi, c'est-à-dire la couleur même du souverain, puisque le pourpre était obtenu par décoction du murex, était quelque chose d'extrêmement coûteux, et dans lequel les habits des puissants étaient teints. Et alors, les avocats portaient ce costume qui est peu à peu tombé en désuétude, et ils se sont contentés de porter la soutane. La soutane telle que la portaient dans ma jeunesse encore tous les ecclésiastiques. Mais comme cette soutane avait besoin d'être adaptée au mouvement
de manche,
c'était une soutane à longs pans. D'ailleurs, les surplis que portaient les ecclésiastiques dans ma jeunesse avaient de longs pans que ne justifiaient point l'étroitesse de leurs manches, mais qui étaient un reste de l'Ancien Régime. D'autre part, comme ces avocats étaient puissants et avaient une juridiction, ils avaient la traîne. La traîne qui est un moyen de reconnaître les puissants de ce jour ou du jour de l'époque dans les cortèges, puisqu'on n'avait pas de CRS, on n'avait pas de moto. Alors c'était la traîne du chef qui indiquait sa dignité, puisque derrière la traîne, les gens étaient bien obligés de ne pas mettre les pieds.
Ben évidemment.
Ce qui fait que, vu d'en haut, on avait une espèce d'isolement du puissant. C'est ainsi que les évêques avaient la capamania, les cardinaux aussi, mais la capamania des cardinaux était de 12 mètres, celle des évêques de 9 mètres seulement, de façon à marquer la différence. Alors les avocats, les magistrats avaient une grande robe avec traîne, qui porte encore à la Cour de cassation, d'ailleurs, dans les audiences solennelles, et les avocats l'avaient et l'ont gardée, puisque nous avons toujours une traîne repliée par un cordon vers l'intérieur, petit cordon qui existe toujours, fabriqué par les fabricants. C'était autrefois la belle jardinière qui fabriquait les vêtements d'avocat. Maintenant, ce sont d'autres fabricants, la maison Bosque notamment, qui a le monopole en quelque sorte de fait. Et alors, il y a une traîne repliée, car on ne porte la traîne déployée que lorsqu'on exerce une fonction juridictionnelle, souveraine. Sinon, on la porte repliée vers l'intérieur, en signe des dépendances et d'humilité.
Vous voyez comment André Damien peut nous donner 1000 détails, et ces détails, vous les trouvez si vous lisez son ouvrage « Les avocats du temps passé ». Ces détails-là et bien d'autres, arrivons, si vous le voulez bien, au 19e siècle, parce qu'il ne faut tout de même pas rester sur l'Ancien Régime, bien qu'on pourrait y rester longtemps. Ce chapitre, long chapitre que vous consacrez au 19e siècle, permet-il de comprendre la profession d'avocat d'aujourd'hui? C'est-à-dire, y a-t-il un rapprochement possible entre le 19e siècle, 20e siècle et même début du 21e siècle? Ou alors la profession d'aujourd'hui a-t-elle complètement évolué par rapport au 19e?
La profession actuelle, 2006, est très différente de ce qu'elle était au 19e. Mais elle sort de ce 19e qui est une césure profonde avec l'Ancien Régime. Pourquoi? Parce que il y a eu la Révolution qui a éteint les avocats. On parlera peut-être de 216 qui a plaidé au procès du roi et qui n'a pas été excellent parce qu'il n'a pas su montrer à quel point ce procès était une fantomatique et nouveau. Il a fait une défense de connivence humble et non pas une défense de rupture en disant « Je suis le roi, je ne dépends que de Dieu et je ne vous répondrai rien ». Le roi a pris, c'est tout à fait le caractère de Louis XVI, une position d'accusé, modeste et humble, répondant, se contredisant parfois « Je ne sais pas, je ne me souviens pas », et des choses comme ça. Alors, ce barreau, qui n'a été pas fait du tout à la parole publique, eh bien, est sorti après la Révolution, à partir du moment où les assises populaires se sont multipliées, une par département, parfois plusieurs, et ces assises avaient besoin d'avocats d'assises, plaidant devant des jurés, c'est-à-dire des gens de bonne volonté, mais qui n'ont pas de connaissance judiciaire. D'où un développement de l'éloquence, d'une certaine éloquence, qui nous paraîtrait un peu ridicule aujourd'hui. J'ai un exemple d'éloquence dans un film, c'est Les Inconnus de la Maison, où la plaidoirie de Rému est l'exact exemple de ce que pouvait être Moreau Giaferi. C'est fabuleux, parce qu'on n'a pas d'enregistrement de Moreau Giaferi. On a dans le film de Sacha Guitry, ceux de chez nous, on a Henri Robert qui est filmé dans sa courette et qui fait des gestes qui sont une évocation évidente. Mais il n'y a pas de son, puisque à l'époque, on n'avait pas la photo et le son. Et Rému, par le paradoxe du comédien, arrive à être plus vrai que ceux qui ont entendu Moreau dans ses plus grandes années. Ce qui fait que l'art de l'éloquence arrivé au barreau a donné une puissance extraordinaire au barreau, et notamment avec ce grand chef, ce grand dominateur, cet avocat roi, qui est Berryer. Berryer le Grand.
Qui a marqué tout le 19e, au point siècle. Que l'expression « l'avocat roi », ça caractérise l'avocat du 19e.
Voilà un exemple. Lorsque Berryer est entré dans un salon rempli de duchesses et de comtesses et de princesses, elle se levait devant lui comme devant un souverain.
André Damien, pour mieux comprendre la profession d'avocat, je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage « Les avocats du temps passé ». Celui-ci, nous venons d'en parler. Mais il y en a un second qui s'intitule « Être avocat aujourd'hui » et je vous propose que nous en parlions dans une autre émission. Cet ouvrage « Être avocat aujourd'hui » est publié par les éditions APIL à Versailles et nous allons en parler dans un autre « Au fil des pages ». Je vous remercie donc d'être venu nous parler de cet ouvrage « Les avocats du temps passé » qui se trouve chez Henri Lefebvre, éditeur d'art, 38 rue de la Paroisse à Versailles. André Damien, merci. À une prochaine fois.